Ça va pas?
Bienvenue au 3e congrès national des procureurs généraux sur les narcotiques et les drogues dangereuses.
Pour combattre efficacement ce fléau, il faut que chacun d'entre nous essaie de concevoir et d'imaginer ce qui se déroule dans l'esprit envoûté des toxicomanes. Par exemple, un toxicomane sous l'empire des drogues appelle le mégot un roach, un cafard, disons. Car il y voit un genre de cafard. Or, ce genre de comparaison morbide...
Putain, mais de quoi il parle, ce con-là? Il faut être raide à l'acide pour trouver qu'un joint ressemble à un cafard. Tu te merdes.
Tous les lundis, à 21h, sur Radio Canu.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus.
Eh ouais, Cannabis Circus, encore là, toujours là, comme tous les lundis soirs depuis. On les compte même plus maintenant. Ça fait tellement longtemps. Donc, ça va être la revue de presse de ce 16 janvier.
Ouais, donc c'est Cannabis Circus. Merci de mettre mon micro. Ah bah c'est bon. Oui. Donc c'est Cannabis Circus, voilà, comme tous les lundis soirs, de 21h à 22h.
Ben voilà, il râle tout le temps, même quand je fais bien les choses. Ah, là, 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 là. Bref, on va voir, il se passe plein de choses en France, c'est fou. Hein.
Ah bon?
Ouais, ben, en tout cas, c'est le Cirque Asso qui va à la rencontre des consommateurs réguliers de cannabis.
Ah, j'ai eu peur.
Auprès des 5 millions de fumeurs réguliers, ouais, à voir leur profil, etc. On va parler pas mal de Kassovitz avec sa dernière série, avec son truc sur le cannabis, tout ça, c'est bien, c'est intéressant. Bref, on va parler un peu de Casso. On va peut-être casser Casso, on va peut-être aimer Casso, on verra bien. Il y a du pour, du contre. Après, on ira voir à Marseille, où il y a une guerre asymétrique, où en tout cas, ben, le gouvernement essaye de faire plein de choses. Je ne sais pas si ça marche. Notre gouvernement n'a pas ce qu'on attaquera dans la deuxième partie avec le Tour de France, le Tour d'Europe ou du monde. Un passage en République tchèque avec une interview de son président qui est très très intéressante, Monsieur Pavel. On ira voir aux Pays-Bas avec la mise en place des règles fixées par l'État fédéral pour sortir de la zone grise et vraiment transformer certains coffee shops totalement blancs. Donc ils ont fait l'essai sur deux dans deux petites villes. Et puis là, ils vont étendre. Et puis moi, ils se sont rendu compte quand même, la règle des 500 grammes pour les coffee shops, c'était un peu n'importe quoi. En effet, un coffee shop ne peut pas avoir plus de 500 grammes de stock d'un produit.
Ben oui.
Voilà. Puis les USA. Il y a plus de dispenseurs que de McDo. Quand même pas mal, la légalisation, ça avance. Hein, et on n'en est qu'à la moitié.
Oui, mais après, dans cet article du cannabis, assez intéressant, on va voir ce que ça masque. Ce que oui, ça révèle, plutôt.
C'est les 15 milliards, le business, et puis mais à quel prix, qu'est-ce qu'on veut comme business, etc.
Voilà, c'est... puis qui est derrière, en fait.
Et c'est les questions qu'on se pose, nous aussi, de temps en temps.
Voilà.
C'est pour ça qu'on est pour la production locale. Non, je crois qu'il
peut... Et les circuits courts.
Et les circuits courts, voilà. Ensuite, on ira faire un tour en Afrique du Sud. Où il y a normalement avant les prochaines élections, ça va être signé, donc d'ici un mois il devrait y avoir la réglementation pour le cannabis devrait être adoptée, donc c'est une légalisation hein, quelque part. La Malaisie aussi,
où un de ses responsables politiques s'exprime pour une décriminalisation est réelle, parce que là-bas aussi ils ont des problèmes de surpopulation carcérale et beaucoup de détenus le sont pour des raisons, des motifs liés aux drogues et au cannabis. Voilà. Parce que, sans surprise, hein, comme ça partout de toute façon.
Voilà, et à la fin, si on a le temps, on parlera du cannabis toujours, avec principalement on s'intéressera au CBD qui a été mis en lumière, on a déjà parlé, contre les douleurs cancéreuses.
Oui. Bon. On va voir. Pas sûr que ça soit vraiment efficace pour tout le monde, parce que bon, dans notre entourage, nous avons malheureusement eu, ou nous avons des personnes qui sont en souffrance, qui luttent contre le cancer, et qui utilisent des cannabinoïdes ou des préparations, bref, pas rentrer dans le détail, mais dont les effets, il y a des effets, mais on ne sait pas. On sait bien qu'avec, de toute façon, avec tous les thérapeutiques, avec tous les médicaments, ça ne fait pas un effet type sur tout le monde. Ça, on sait bien. Voilà. Et on commence tout de suite par
un article de Newsweek.
Un record du monde.
7m23.
Oui, 7m23, ce n'est pas la taille de Victor Machin qui joue au basket aux États-Unis. Non, non.
Ouais, ce n'est pas le record du saut en hauteur.
Non plus.
Même à la perche.
Même à la perche, non. C'est la taille extraordinaire d'un pied de chambre ouais. En Californie. Voilà, 7m23, je n'avais jamais vu une. Enfin, j'avais jamais lu quelque chose d'aussi important quoi, pour un pied de chambre.
Je sais en avoir croisé un de plus de 5 mètres au Népal.
Ouais, 5 mètres, ouais, c'est à peu près ce 5, que je pensais.
5-6 mètres, avec des trucs assez grands. En plus, il était tout seul. Il était entouré d'orties, hein, mais des orties népalais. Hein. Il ne faut pas les toucher, ceux-là, ils sont pas gentils.
Ah bon? C'est-à-dire, ils piquent très fort.
Ouais, pique, et après ça te fait des petites boules de pu à chaque fois, à chaque endroit que t'as piqué. Donc c'est vraiment des...
Il était bien protégé en fait.
Ouais, il était bien protégé.
Personne pouvait venir le couper quoi. D'accord. Enfin en tout cas voilà, en Californie, bah, en tout cas il y a des chanvriers qui ont cultivé ce qui semble être, parce que c'est quand même au conditionnel, le plus grand plant de chanvre jamais vu. Donc 7m23. Et apparemment ce serait un record du monde. Voilà, c'est une petite info comme ça pour ouvrir l'émission. Alors, ce qui n'est pas dit dans cet article, c'est si ce plan de chanvre était un plan destiné à, je sais pas, à la culture, comment dire, à la récolte des fleurs, ou si c'était un plan qui était
uniquement
plutôt
pour
riche
la fibre.
En fibres. Bah, dans l'article, il parle de ça d'une manière générale, mais là, sur le pied lui-même de 7m23, je ne suis pas arrivé à savoir si c'était de celui-là dont on parlait pour...
Je ne sais pas.
Bon, bref, peu importe. En tout cas, voilà, ça peut attendre 7m23 et c'est pas non plus extraordinairement important, c'est extraordinairement grand, mais voilà, c'est tout.
Voilà, allez. Nous allons continuer avec des articles de nos condisciples du cirque, entre autres, qui sont allés à la rencontre des consommateurs réguliers de cannabis.
Ouais.
Et nos collègues en démontrent plus de 5 millions de consommateurs, donc réguliers.
Voilà, donc on en profite pour saluer nos amis, nos camarades du cirque qui sont dans la région de Tours, et qui participe à la rédaction de différents articles que nous reprenons et dont on parle tous les lundis soirs dans ce créneau horaire à cette antenne dans Cannabis Circus. Donc nous les saluons. Voilà.
Voilà, le profil des consommateurs dans ces 5 millions, c'est plongé dans la diversité des parcours de vie. Parmi eux, on retrouve des cas des ingénieurs, des travailleurs associatifs, des jeunes actifs, des habitants de zones rurales et urbaines. Le cannabis ne fait pas de distinction sociale. Paul, informaticien de 35 ans, vivant près de Lyon, en est un exemple. Et de l'autre côté, à l'autre bout du spectre, Titi, 48 ans, a développé une consommation quotidienne dès son adolescence. Vivant désormais dans un village pyrénéen, il illustre la facilité d'accès à la drogue, même dans les régions éloignées des grands centres urbains. Voilà, donc accessibilité croissante. Hein.
Et puis depuis des décennies. Hein.
Ça a même été souligné par Catherine Delorme, la vice-présidente de la Fédération Addiction, qui affirme que le cannabis est désormais trouvable partout. Que ce soit donc dans les milieux urbains denses que dans les zones rurales.
Oui. Ensuite,
voilà différentes petites discussions ouais. À cause de Darmanin, tout ça.
Ben oui, qui stigmatise et accuse les consommateurs de financer le trafic et par conséquent les violences qui y sont associées.
Voilà, donc se pose la question de l'autoproduction. Et puis il y en a un d'ailleurs, alors je ne sais pas comment il l'appelle, Mathieu je crois, 26 ans, employé de société de conseil. Donc pour lui, acheter chez un dealer est moins risqué judiciairement que de cultiver soi-même.
Oui, alors il y a des personnes qui pensent l'inverse. Hein. Je ne sais pas le dit dans l'article, mais il y en a qui pensent que s'auto-produire et ne pas passer par l'achat au marché noir, c'est moins risqué judiciairement. Voilà, donc bon, ça dépend aussi où on réside et des politiques pénales du parquet au niveau local. Hein,
tout à fait, c'est exact. C'est peut-être ce petit point-là qui fait la différence.
Ouais.
Allez, on continue donc toujours de l'ombre qui dit que la plupart des usagers voudraient pouvoir accéder de façon totalement légale à leurs produits et ne pas alimenter des réseaux illicites. Ils n'ont pas le choix, donc ils en procurent là où le marché existe. Voilà, donc l'égalisation comme seule solution, ça fait longtemps qu'on le dit, hein. Voilà, en France, la consommation de cannabis est passible d'une amende, mais les sanctions sont beaucoup plus sévères en cas de consommation au volant. Cette politique soulève des questions de l'efficacité des mesures répressives dans la gestion du problème des drogues. En conclusion, la réalité de trafic de drogue sur la consommation de cannabis en France met en lumière la complexité des enjeux sociaux, économiques et politiques associés. Les consommateurs réguliers, qu'ils soient cadres dynamiques ou habitants de zones rurales, sont confrontés à des questions de responsabilité et de légalité dans un contexte où l'accès à la drogue est de plus en plus aisé. La voie vers une solution durable reste sujette à débat, mais la nécessité d'aborder cette problématique de manière globale et inclusive est indéniable. Mais nous sommes tout à fait d'accord, chers amis. Et avec, bien sûr, le circuit court, et c'est pas tout de légaliser, c'est comment on produit.
Oui, comment on légalise, comment on produit, comment on distribue. Il y a plein de manières différentes de procéder. Voilà.
Allez, on en arrive à Kassovitz.
Oui, on en arrive à Kassovitz. J'ai l'impression que tu y tiens. Non, bah.
Non. C'est ouais. Intéressant, j'aime bien Kassovitz.
Ouais, alors bon, du coup.
Vous savez, celui qui a fait La Haine.
Oui, c'est
en 96,
un grand film. Non, mais tout à fait.
Alors, en 95, pardon.
95. Alors,
2001, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. 2015, Le bureau des légendes. 2024, Les Rois de la Piste, donc qui sort actuellement. Et il a fait aussi un documentaire qui s'appelle Le Cannabis.
Voilà, et qui va être diffusé, sortez vos agendas, qui va être diffusé, nous dit-on, en prime time le 2 avril sur France 5, suivi d'un débat qui sera animé par Karim Rissouli. Voilà, donc le 2 avril en prime time. Alors pour moi, en prime time, c'est 21h, quoi, 20h45 ou 20h30, je sais pas, c'est pour moi, c'est ça le prime time. Donc voilà.
21h, oui.
Donc, Kassovitz s'y colle, a envie de faire un docu. Pour ce faire, il est allé rencontrer plein de gens différents. Il est même allé jusqu'à interviewer Justin Trudeau, le président canadien qui a fait procéder à la légalisation en 2018. Mais il interroge, il va aussi rencontrer des dealers de quartier, des consommateurs dans des zones plus rurales, etc. Enfin bon, bref, il va rencontrer plein de gens, en fait. Il va dans plein de pays, il va aux États-Unis, il va au Canada, voilà, bon.
Ouais,
au Maroc, en Espagne, aux Pays-Bas, Thaïlande aussi.
Voir où ça se passe, voir comment ils ont fait, etc.
Ah, j'aurais bien aimé qu'il aille en Uruguay. Mais peut-être qu'il y va, là, c'est pas écrit dans l'article, mais j'aurais bien aimé qu'il aille y faire un tour. Bon, apparemment, c'est pas précisé ici. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, donc bon, bah, en parcourant tous ces pays, il s'interroge sur les effets de la légalisation. Et il met aussi en lumière les différences avec la France où, comme vous le savez toutes et tous, on n'arrête pas de le dire, de le répéter, de l'analyser. En France, le cannabis est illégal, malgré une répression importante et des lois extrêmement dures. Le cannabis est illégal, alors que la consommation est quand même ultra répandue, comme on vient de le voir un peu partout, finalement, zone urbaine, zone rurale. Dans pratiquement, je dirais, toutes les classes d'âge, et même dans les classes d'âge qui ne devraient pas le connaître et le consommer, hein, c'est quand même un peu le problème de ce système prohibitif, c'est qu'en fait, c'est une espèce d'ultra-libéralisme où tout le monde peut en trouver partout, y compris à des âges des âges très trop jeunes. Voilà.
L'intérêt de la légalisation contrôlée.
Voilà, exactement. Kassovitz souligne également l'importance de l'éducation et de la prévention. Ben oui, c'est pour ça que c'est important de légaliser. Et il parle de son propre parcours. Lui, il a commencé à fumer, il avait 13 ans, puis après il a complètement arrêté, puis il a repris à 25. Il met aussi en garde contre une approche purement répressive, plaidant pour une communication ouverte et une information transparente sur les drogues, notamment auprès des jeunes. Alors, il prétend pas détenir toutes les réponses, il veut faire réfléchir. Voilà. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que il prend pas position directement en faveur de la légalisation, et moi, ça me gêne un peu. En fait, il se positionne pas.
Ah non, il essaye de faire un témoignage, de se dire qu'il fait un truc objectif en allant voir voilà, des gens comme Justin Trudeau qui disent bah oui, moi je veux simplement ouvrir le débat. Hein, et avec le Canada, il a ouvert le débat comme l'Uruguay l'avait fait avant eux. Comme ça continue, ouais, et que ça fait boule de neige, puisqu'en Europe, on a déjà Malte, Luxembourg, bientôt la Tchéquie, bientôt l'Allemagne, peut-être l'Irlande. On verra.
Ouais. Enfin bon, je pense que s'il avait, c'est une hypothèse. Hein, peut-être que s'il avait trop plaidé la légalisation, il aurait peut-être pas vu son docu diffusé en prime time sur France 5. Voilà. C'est un peu ce que je pense. Donc il a.
En tout cas, il se cache pas de fumer depuis qu'il a 25 ans régulièrement. A priori, si je me trompe pas.
Oui. C'est pas un tabou dans la famille.
Voilà, il dit chacun son addiction. J'ai vu ma mère rongée par l'alcoolisme, la déchéance à la fin de sa vie. J'allais la ramasser dans la pisse. Voilà, pour après dire beaucoup de bien de sa mère, hein, évidemment. Il a toujours été un peu brut de décoffrage, un casseau élevé sans trop de règles et sans notes dans une école alternative.
Oui, dans une école de crochet.
Bref, il n'y avait pas grand nombre d'autres choses à dire.
C'est l'article du Monde, là.
Ouais.
Oui.
Voilà, Mathieu, comme lui, dit son père, Mathieu, la voracité de l'autodidacte qui veut désormais tout apprendre et jure, malgré ses tournants parano, avoir la science d'une seule boussole. Voilà, bon, en tout cas, bon, c'est intéressant, faut voir.
Avoir la science comme seule boussole.
Voilà. Ouais. Donc, en tout cas, faudra voir, on ira voir la voie des rois de la piste et puis on rediscutera donc. Du film de Mathieu Kassovitch, ben un petit peu en début avril, hein, après le 2 avril sur France 5, hein, donc on va essayer de le rappeler.
Voilà, c'est bientôt.
C'est bientôt 2 avril. France 5, hein, voilà, et on verra bien l'heure, on essaiera de le rappeler dans tout ça. Bon, Casso, on en parle évidemment, comme il fait aussi un ballet qui reprend la haine, il y a des discussions où ils disent qu'ils voulaient en faire de la thune, etc. Bon, bref. Ouais. C'est comme tout, avec les gens, il y a toujours des polémiques. Allez, dernier petit article français avant de partir en musique. Marseille, décrite par les magistrats comme une narco-ville.
Petit article. C'est un gros article quand même.
Ouais, vas-y.
Bon. Oui, alors. Vivement le documentaire de Mathieu Kassovitz. Parce que quand on lit ça. Donc voilà, c'est un article, qui nous est. Donc là, c'est un article qui nous est
écrit par Cirque, par le Cirque
et qui reprend un article de Libé, je crois, ou du Monde, qui est paru la semaine dernière. Et c'est en fait des magistrats marseillais qui s'expriment devant une commission sénatoriale sur le narcotrafic, où ils disent nous sommes en train de perdre la guerre. Et il semblerait que ces magistrats marseillais ne regardent pas la télé, ne lisent pas les journaux, ne sont jamais sortis de chez eux. Peut-être même ils ont jamais sorti du département des Bouches-du-Rhône, je ne sais pas.
Ah, eux, ils voient les choses par le nombre d'affaires classées.
Petit bout de leur lorgnette et n'ont jamais ouvert un journal. Voilà. Ce qu'on y lit est quand même consternant, je suis désolé.
Mais on y apprend des petites choses quand même. Qu'on voit que dans des films.
De quoi ? Vas-y, je te laisse exprimer.
C'est toute l'attaque, c'est bien là, ça va faire erreur, contre les avocats et contre tout cette armée du crime qui est tellement bien défendue que dès qu'il y a une petite faille de procédure, les gens sont libérés. Et a priori, il y en a quand même pas mal.
Oui, disons que moi, quand je lis ça, j'ai l'impression de relire un bouquin que j'ai lu quand j'étais tout jeune sur la corruption des juges et tout à Chicago avec Al Capone.
C'est ça, voilà. C'est exactement ça. Non, mais on est d'accord.
Nouveau, en fait.
C'est là-dessus. Il n'y a rien de nouveau, mais ça n'empêche pas que ça se reproduit. Parce qu'il y a quand même un travail. C'est ce que disent, c'est des choses qu'on sait déjà, dont on a déjà parlé ici. Mais c'est ce que répètent ces magistrats. Donc c'était le 5 mars, hein, devant la commission sénatoriale. Donc ils parlent de Narcoville, donc quand même ça va assez vite. Ils n'oublient pas. Et c'est vieux, hein, puisque déjà en 98, à Marseille, il y a déjà un juge qui s'est fait tirer dessus.
En 81,
oui, même.
Juge Michel.
Oui, c'est ça. Donc les plans Marshall, tout ça, ce truc, bon, c'est important. Voilà, la détention est devenue un véritable problème car elle ne met plus Elle ne met plus fin aux activités des têtes de réseau, déplore Isabelle Faure, chef de division de lutte contre le crime organisé de Marseille. Même avec 10 mandats de dépôt criminels, ils continuent à commanditer des assassinats ou gèrent leur point de deal comme s'ils étaient à l'extérieur. Donc, il y a aussi ça.
Oui.
Donc il y a quand même des gros réseaux bien organisés.
Forcément, quand on a plein de, quand on brasse des millions, on a les moyens de se payer des super avocats, on a les moyens de se payer des tueurs à gages. On sait bien que.
Oui, la protection des témoins, ça veut dire quelque chose. Et puis ensuite, donc, comment ça arrive auprès de ces chefs de réseau? Donc, ils se demandent d'ailleurs plaidoyer pour un régime carcéral très dur. Je ne pense pas que ce soit la solution.
Dans leurs arguments, on dirait qu'ils pointent, ils veulent qu'il y ait la mise en place d'un régime juridique spécial pour ce sujet. Voilà. Donc, alors que déjà la loi sur les stupéfiants est une loi très dure qui est calquée sur la loi antiterroriste. Ouais, faut quand même le savoir.
Tout à fait. Avec des saisies, etc., des choses qui sont d'ailleurs assez bizarres. Et donc continue. C'est des choses qu'on a déjà dit, mais tout adoucine, c'est intéressant. On en a parlé il y a 2-3 mois, je crois, de ça. C'était une étude de je ne sais plus quel ministère. Donc avec des moyens financiers infinis dont disposent les narcotrafiquants, une corruption 10 de basse intensité est déjà observée auprès des policiers, d'agents pénitentiaires, et cela est en augmentation, relève Nicolas Besson, le procureur de la République. Donc c'est la corruption dite de basse intensité qui est intéressante. C'est vraiment se renseigner sur les gens, les aider à trouver des failles, racheter leurs dettes ou leur en créer, et voilà. Et après, les mettre dans un engrenage. Après, ils continuent, ils disent que le régime pénitentiaire de la détention provisoire est inadapté à ce type de public aussi. Parce qu'il y a eu quand même deux cas de chefs de gang d'un côté qui se sont fait assassiner en préventive.
Oui.
Voilà.
Bah oui. La concurrence, quoi. Il faut l'éliminer.
Voilà, entre la
compris en prison.
Il y a deux gangs principaux, a priori, dont la DZ Mafia.
La DZ Mafia.
Voilà. Et Yoda, c'est l'autre.
Et l'autre nom d'un autre groupe.
Voilà. Ça continue au couteau, même en prison. Le procureur de la République aussi propose. Alors ça, c'est quelque chose, je suis pas tout à fait d'accord. C'est sur le statut des repentis, parce qu'il était réservé à des gens qui n'ont pas de sang sur les mains. Donc là, il dit il ne faut pas d'éléments moralisateurs, le but c'est l'efficacité. Il faut voir le statut des repentis, il faut voir quel allègement de peine, parce que de temps en temps, il ne faut pas déconner non plus. Et c'est là-dessus que je finissais par les chefs de réseau, donc c'est leur capacité à rémunérer plusieurs avocats et pas des moindres. Les délinquants payent très cher une défense qui ne va pas se battre sur le fond du dossier, mais sur la procédure, avec en ligne de mire la détention, en multipliant les plaintes contre les juges d'instruction, les remises en cause systématiques de certains actes d'enquête, et utilisent des stratagèmes pour obtenir une remise en liberté. Donc elle incite donc aussi le législateur à encadrer de manière plus contraignante la possibilité de recours. Voilà, donc ça c'est bien, c'est pas bien. C'est le problème du crime organisé, et c'est surtout le problème de cette prohibition qui nous ramène aux heures les plus sombres de la prohibition aux États-Unis, avec Chicago, Al Capone, comme tu le disais, que cette phrase, ça te faisait penser à ça.
Oui.
Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil, tout à fait. L'histoire balbutie, ne se répète jamais tout à fait, mais toujours identique.
Non seulement il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais encore une fois, j'insiste, quand je lis ça, j'ai l'impression que ces magistrats qui se plaignent de toute cette situation, ils ne sont jamais sortis de chez eux, ils n'ont jamais ouvert un journal. Ils savent pas ce qui se passe au Canada, ils savent pas ce qui se passe aux États-Unis, ils savent pas ce qui se passe en Allemagne, bref. Ils sont là à se gratter la tête, mais comment on va faire? Parce que là, c'est l'article, mais il y a eu un midi sur France Inter, ça a duré une demi-heure, où c'était ces magistrats qui étaient invités.
Et tout le monde est là. Ça devait être 25 mars, alors. Voilà.
Et tout le monde est là. Oh là là, mais comment faut faire? Comment est-ce qu'on peut lutter encore plus contre les trafiquants? Et puis dans les... Mais enfin, il n'y en a pas un qui peut... Qui
dire qu'il faut sortir de la prohibition.
Mais non, bah, en fait non, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Et, oulala, non, surtout pas. Ou alors, je crois que il y en a un qui a dit, peut-être on pourrait voir autrement. Mais le journaliste, tout de suite, a clos le... Enfin, le journaliste, oui, enfin, l'animateur plutôt de France Inter a tout de suite clos le presque débat qui allait s'enclencher. Enfin, c'est vraiment... Voilà. Bon, bref, on va continuer. Peut-être on écoute un peu de musique et après on parle du président tchèque. Parce que quand on voit le président tchèque dans l'article d'après, on se dit mais il pourrait pas se rencontrer les magistrats marseillais là qui comprennent pas ce qui se passe et qui sont à courte solution et
non. Ah bah, non. Eux ils suivent la loi, surtout les magistrats. Hein. C'est pas eux qui la font.
Non mais bien
donc,
sûr.
Eux là ils étaient devant le Sénat, ils leur disaient voilà nos problèmes, voilà ce qu'il faut changer. Eux ils donnaient des pistes.
Mais ils donnent pas de pistes. Quelles pistes ils donnent?
Si ils sont toujours sur plus faire des prisons de haute sécurité.
Mais c'est pas des pistes ça enfin, c'est des anti-pistes. C'est des pistes, c'est pas des pistes.
Et après ils décrivent enfin, et après ils décrivent les faits. Et après ils décrivent les faits. C'est ça. Voilà. Après souvent plus que d'avoir des solutions, c'est qu'ils ont beaucoup décrit les faits, des choses dont on a déjà parlé.
Mais qu'on sait. Bon,
bref, tout à fait.
C'est pas des pistes.
Mais c'est bien de le rappeler. Et là, quand les juges, quand les sénateurs écoute les juges et les magistrats, c'est quand même des paroles qu'ils portent et j'espère qu'ils se posent des questions.
Mais bien sûr que non, enfin, mais tu vois pas. Enfin, tu vois bien que ça tourne en rond.
Il y a quand même certains de leurs collègues de tous bords qui ont fait des textes, des maires de ville aussi, qui sont aussi...
Mais tu vois bien que c'est ultra minoritaire, qui sont illégitimes, qui n'ont pas voix au chapitre et qu'en fait on ne reprend pas leurs idées.
Néanmoins,
on reprend même pas ce qui se fait dans d'autres pays et qui marche. Enfin, je veux dire, c'est là où c'est gravissime.
Mais je suis d'accord avec toi.
Ils tournent en rond. Voilà. Ils tournent les Shadocks.
Ouais.
Ils tournent en rond. Le hamster dans sa roue. Il faut lutter contre la drogue parce que la drogue c'est mal et plus on va lutter et plus on se trompe. Et ils tournent.
Plus on lutte, plus il y a de la drogue et plus il y en a pour les jeunes et plus il y a du narcotrafic et plus ça pourrit la société. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Alors que un ou plusieurs des magistrats là, qui participent à cette commission sénatoriale, on pourrait imaginer qu'il y en ait un qui dit, ou plusieurs qui disent « Bon, notre système est à bout de souffle, ça ne marche pas, il faut changer de régime, il faut changer les lois parce que si... » Non. Ils s'entêtent, ils tournent en rond et ils se cognent contre le mur.
C'est vrai que leur solution ne va que du côté de
plus de répression. Ils se posent pas de questions. C'est incroyable.
Je suis bien d'accord avec toi. Ça c'est malheureux. Mais par contre, la description qu'ils font est intéressante. Même si et ça rappelle Capone et tout ça.
Et en tout cas, la description la qu'ils font est intéressante, mais ça fait pas tilt dans leur tête. Voilà.
Eh oui, ça fait pas tilt.
Wow.
Et voilà, on vient de s'écouter les 100 grammes de tête. Give me some bread.
Bien, allez, on continue, on va aller faire un petit tour en République tchèque maintenant.
Bah plutôt, c'est lui qui est venu en France, si je ne me trompe pas. Non, non, pas, ah que, ben, pas que, pas que.
Non, il me semble pas, non, j'ai pas, bah peut-être, je me semble pas avoir lu ça, mais je... non, il s'est adressé aux citoyens de la ville de Kladno.
Tout à fait.
Voilà, c'était le 6 mars dernier. Et il a suscité apparemment un débat animé, puisqu'il s'est exprimé en parlant de la question de la légalisation du cannabis en utilisant, lit-on, des propos réfléchis. Voilà. Lors de cet échange, l'adjoint au maire de Kladno a donc interrogé le président Peter Pavel, en fait, président de la République tchèque, il l'a interrogé sur sa position concernant le cannabis. Et il a répondu d'une manière qui apparemment a stupéfié bon nombre de personnes présentes dans la salle. Alors, il a d'abord dit qu'il n'était pas spécialement favorable à une légalisation complète du cannabis sans aucune réglementation ni analyse préalable. Bon, ce qui me paraît être une position prudente, mais qui se tient. Apparemment, quand même, il s'est exprimé par la suite et il a quand même une position bien que nuancée, a marqué une divergence significative par rapport à certaines attentes. Voilà. Alors, parmi ses critiques principales critiques formulées, il s'est exprimé sur les peines disproportionnées qui sont infligées pour des délits mineurs liés au cannabis, ce qui contribue à la surpopulation carcérale. Tu vois, regarde, c'est pour ça que je te disais là, je criais tout à l'heure par rapport aux juges, aux magistrats. Ils sont quand même bien placés pour savoir que la prohibition, justement, contribue à la surpopulation carcérale. Pourtant, pas un mot là-dessus. Bref, lui, il le sait, il n'est pas juge. Hein.
Et il estime que réglementer la consommation de cannabis permettrait de mieux cibler les problèmes de sécurité publique et de santé.
Voilà, bon. Fait, je me demandais, moi, je ne sais pas, peut-être toi tu peux me répondre, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas élire un président d'un européen dans un autre pays européen? C'est pas possible, ça. Franchement, on ne pourrait pas élire Peter Pavel, président de la France, et puis on envoie Darmanin et Sarkozy Macron, excusez-moi.
Ils n'en veulent pas là-bas.
Et on les envoie en Italie, je ne sais pas, ou en Russie, non? Ah non, Russie peut-être pas, mais je ne sais pas, en République, en Slovaquie, là-bas il y a un...
Bref, nécessité de régulation aussi, le contrôle en réponse à une contrôle croissante chez les jeunes.
De quoi donc?
Je disais l'autre chose, hein, c'est une nécessité de régulation, un contrôle en réponse à une menace croissante chez les jeunes, c'est-à-dire que de plus en plus de jeunes consomment.
Des jeunes gens, voilà, même dans les écoles primaires, voilà. Il dit qu'ils sont en contact.
Je lirais très volontiers la déclaration in extenso du président Pavel.
Tu veux que je la lise?
Vas-y si tu veux, tu me relayes.
Je te relaye, vas-y.
Je n'ai jamais pensé à un assouplissement sans aucune réglementation, sans aucune réflexion ni analyse. Si nous regardons la toxicomanie de manière plus large en termes d'impact, nous retrouverions très probablement un certain nombre d'arguments d'arguments à l'appui. Les drogues, qui sont généralement approuvées et même annoncées, font bien plus de mal que la consommation de cannabis. Et si nous regardons nos prisons, il y a beaucoup de gens là-bas pour des délits essentiellement mineurs, liés à des quantités relativement faibles de cannabis. Ces gens ne vendaient pas d'énormes quantités, mais cultivaient soit uniquement pour leurs propres besoins, soit pour un très petit groupe de personnes autour d'eux. Et je ne pense pas...
Et je pense
qu'il est disproportionné que quelques-uns soient essentiellement condamnés à la même peine que pour ce genre de crime, que pour des crimes violents, comme... Voilà, bref, c'est beaucoup trop fort. Non seulement nous avons des prisons surpeuplées, mais nous avons aussi beaucoup de gens qui sont incarcérés pour des crimes qui ne sont pas considérés comme des crimes dans d'autres pays. Je pense qu'il serait utile d'envisager d'examiner attentivement les pays. Nous voulons nous comparer aux conditions dans lesquelles de telles démarches pourraient être viables. Et plus important encore, nous devons admettre que la légalisation ne signifie en aucune forme d'anarchie. La légalisation signifie la maîtriser. Voilà.
De nos jours, le cannabis du marché noir est couramment consommé par les enfants des écoles primaires et ils peuvent y accéder sans problème. L'âge est de plus en plus bas et personne ne sait que ces adolescents achètent, ne sait ce que ces adolescents achètent réellement. S'il y a une réglementation, alors les produits qui seront vendus seront certifiés, ils sont soumis à une sorte de contrôle. Il y aura au moins une certaine assurance que ce qui circule parmi les gens peut avoir des effets intoxicants, mais ce n'est pas le cas. Quelque chose qui pourrait leur nuire gravement. De plus, s'il est vendu dans le cadre d'une telle réglementation, alors comme dans d'autres pays, par exemple dans certains États des États-Unis, on peut choisir exactement le produit qui correspond aux effets attendus. La gamme va du complètement sédatif à l'extrêmement stimulant. Et c'est là que je pense vraiment qu'il est logique de soumettre ce qui se passe et se produira de toute façon, sans contrôle, sous un certain degré de contrôle, et en même temps de réduire les risques que cela implique. Ce n'est pas idéal, bien sûr, mais c'est un moindre mal que de laisser les choses telles qu'elles sont maintenant.
Ah oui, ça ne peut pas être pire que la prohibition, puisque la prohibition, c'est le pire.
Voilà, donc moi je dis votez Peter Pavel. Voilà, j'espère qu'il va se présenter aux élections en France. Mais malheureusement non, ça ne se fera pas. C'est bien dommage. Aïe.
Allez, autre pays dont on parle très peu parce que...
Ah bah si, on a parlé la semaine dernière.
Oui, donc nous on parle beaucoup, mais je parle qu'on parle très peu dans l'actualité. Parce que pour beaucoup c'est déjà légal aux Pays-Bas.
Alors que ce n'est pas le cas.
Alors que ce n'est pas le cas, c'est juste dépénalisé et ils sont dans une zone grise et les coffee shops ont beaucoup de problèmes. Ils ont le droit de vendre, ils ont le droit d'avoir un stock de 500 grammes, mais après ils sont dans l'illégalité et leur approvisionnement est miraculeux.
Oui.
C'est bien ça, puisqu'ils ne l'achètent nulle part.
Voilà, ouais. Voilà. Alors, on en a parlé un peu la semaine dernière, on vous expliquait que Amsterdam n'avait pas été qualifié pour participer à l'expérience. Voilà, mais bon, en tout cas, Tilburg et Breda sont des villes qui sont qualifiées. Et ça a
ils ont même déjà commencé.
Au mois de décembre.
Ils ont été qualifiés pour l'expérimentation.
Voilà, oui. Donc, ils ont commencé au mois de décembre.
Et avec ça, ils en tirent déjà quelques petites conclusions.
Voilà, et ben parmi les conclusions, c'est qu'ils n'ont pas prévu des quantités suffisantes.
Voilà, donc déjà la règle restrictive limitant le stock des coffee shops à 500 grammes de produits de cannabis légal, ça fait des problèmes de pénurie, donc ils vont sans doute revoir ce petit côté-là.
Bah, ils ont intérêt, oui, sinon...
Voilà, donc après l'article de Newsweek, il va un peu plus loin, il se rappelle des chiffres aux USA. Donc plus de 15 milliards de recettes fiscales depuis 2014.
Ah d'accord, t'es passé sur l'article suivant donc. Non ?
Ah pardon, oui, je...
T'es passé des États-Unis, de la Hollande aux États-Unis.
Oui, pardon.
D'accord, bon après...
Je comprenais pas d'ailleurs, mais...
Voilà, donc bon, juste tout ça pour dire qu'il y a quand même deux entreprises qui ont été sélectionnées pour participer à l'expérimentation et qui ont été sélectionnées comme cultivateurs pour fournir des produits au coffee. Hein, voilà. Et on nous explique qu'en fait, ça marque vraiment un tournant pour le secteur puisque là, c'est un peu pour la première fois, en fait, les coffee shops qui participent à l'expérimentation sont approvisionnés par des cultures de cannabis réglementées, ce qui n'était absolument pas le cas auparavant, donc c'est vraiment une première. Et oui, il y a beaucoup de gens, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure, mais qui pensent que c'est légal aux Pays-Bas, ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas encore de système de production et de distribution légale, tout se fait dans une zone grise. Voilà, et donc c'est aussi pour ça qu'ils ont lancé cette expérimentation et que là il y a des entreprises comme Lely Holland et qui est propriété de Pure Farms qui participent à l'approvisionnement officiel et légal des coffee shops. Voilà. On nous dit ensuite pour terminer que l'expérience néerlandaise intègre plusieurs bonnes pratiques du secteur, notamment des emballages clairs, un nombre limité de cultivateurs et des protocoles de tests rationalisés, ce qui fait des Pays-Bas un modèle potentiel pour les autres pays européens. Mais bon,
oui, surtout là avec leur circuit court, voilà, faut voir comment ça va être indiqué, comment ce qu'ils indiqueront, s'il y aura le taux de THC, CBD, CBN, etc.
Voilà, bon après, en termes de bonnes pratiques, je pense qu'il va falloir ajouter un certain nombre de pays pour les bonnes pratiques, parce qu'il n'y aura pas que la Hollande, on verra ce que va faire les Pays-Bas. l'Allemagne, pardon. Il y a déjà des pratiques bonnes, plus ou moins, enfin je sais pas, qui sont mises en place au Canada, dans certains états des États-Unis ou en Uruguay. Bon, on va voir avec l'Afrique du Sud tout à l'heure. En tout cas, plein de modèles vont exister. Alors il y en a un qui s'inquiète quand même, c'est Jop Maestrom, qui est propriétaire d'une maison d'édition et défenseur du cannabis. Alors lui, il s'inquiète de la portée limitée de l'expérience et de son impact sur les droits de la culture à domicile, qui n'est pas légal, c'est pas officiel, on peut pas légaliser, on peut pas cultiver chez soi de manière légale aux Pays-Bas. C'est pas encore le cas. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on rediscute de tout ça pour que on puisse remédier à des disparités entre les villes expérimentales et les régions qui sont exclues de l'initiative de l'expérience, quoi, en fait. Voilà, donc effectivement, s'il y a des amateurs d'autoproduction aux Pays-Bas, bon bah pour eux, ça les intéresse. Ils aimeraient bien savoir, en fait, si un jour ou l'autre, ils vont pouvoir cultiver peinard chez eux, quoi. Légalement, sans risque d'être poursuivis. Voilà. Tout simplement.
Allez, États-Unis, c'est un article du Cannabiste ?
Oui, un article du Cannabiste qui commence en nous parlant du fait qu'il y a aujourd'hui plus de dispensaires qui vendent du cannabis, 15 000, plus que de restos McDo, 13 500.
Voilà. Voilà. Donc pas plus que de fast-food, hein. Il y en a plus quand même, hein, même si McDo en a
beaucoup. Plus de restaurants McDo, mais effectivement, oui, si on met bout à bout tous les fast-food, ça fait plus que 13 500.
Voilà.
Plus
donc par dispensaire, hein, faut comprendre coffee shop ou magasin qui vend du cannabis, pas forcément médical, hein.
Non, bien sûr, récréatif aussi. Alors, ce qui est intéressant dans cet article, c'est en fait de voir qui est derrière tout ça. Et là, merci le cannabiste qui nous donne quand même un peu des infos, où en fait, on s'aperçoit que derrière la légalisation et ses dispensaires, alors je ne sais pas si toi tu l'as compris comme moi, mais on voit poindre l'industrie du tabac. Qui investit dans le cannabis. Et honnêtement, je ne suis pas super fan de tout ça.
Je pense ils aimeraient bien vendre des joints tout roulés, hein. Même en Ford de Cône, hein, ils vont y travailler pour trouver faire la machine, mais tant qu'ils peuvent faire du blé, ils s'en foutent.
Ouais, enfin en tout cas, voilà, c'est pas très joli. Mais en tout cas, c'est quand même une réalité. Aujourd'hui, le Big Tobacco, se sentant maigrir de plus en plus, stigmatisé aussi pour avoir produit tout un tas de rapports pseudo-scientifiques vantant les vertus du tabac qui a tué des millions de gens, hein, quand même, il faut le rappeler.
Qui tue toujours des millions, on vous le rappelle.
Et donc en fait voilà, ils sont derrière tout ça. En 2019, Altria, qui est le fabricant de cigarettes Marlboro, a quand même injecté 2 milliards de dollars dans la société de cannabis canadienne qui s'appelle Cronos, puis a dépensé 12 milliards de dollars supplémentaires pour acquérir une participation importante dans Juul, qui est un leader du marché des produits de vapotage aux États-Unis, qui détient quand même les trois quarts du marché. Le cannabis nous dit que la corruption se manifeste à l'intersection des investissements, de l'influence, du lobbying, du pouvoir politique et des grandes entreprises, et l'industrie de la marijuana n'échappe pas à cette réalité. De nombreux exemples en témoignent. La vague verte s'est transformée en une vague verdâtre et poisseuse. Ouais, super. Et donc, voilà, pour terminer, donc la croissance étonnante du nombre de dispensaires à travers les États-Unis démontre parfaitement quel virage prend cette industrie. Et nous voyons bien à qui cela profite et qui met la main dessus. Donc, l'industrie du tabac pour l'instant. Mais on avait vu que Heineken aussi avait investi pas mal d'argent. Et Coca-Cola, il me semble, il y a quelques années, on en avait parlé. Ouais. Ça reflète non seulement les habitudes de consommation, mais aussi les explications des politiques réglementaires. Alors oui, c'est bien que le cannabis se démocratise, mais à quel prix ? Faut-il sacrifier la qualité, l'amour de la culture au nom du business ?
Je pense que c'est très important, ceci.
Ouais. Faut-il désacraliser complètement le cannabis au nom des géants ? En bref, c'est un peu la même réflexion qu'avec le secteur agroalimentaire, bio, local et artisanal ou industriel issu d'industries qui pèsent des millions voire des milliards. Voilà, nous on vous laisse à vos réflexions pour tout ça, mais effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure et comme on l'a répété à plusieurs reprises, voilà, circuit court, local, c'est quand même à mon avis le meilleur moyen d'éviter des concentrations de capital.
Voilà, mais après, bon, il faudra des petites manufactures, surtout pour avoir toujours les mêmes qualités régulières, parce que c'est toujours ça qui est difficile, c'est d'avoir toujours le même produit, identique. Voilà, avec des gros groupes, ça sera des cigarettes manufacturées, ben, elles seront toujours, toujours pareilles. Elles seront sans doute moins bonnes, elles auront moins de... Voilà. Mais elles seront toujours pareilles et c'est pas toi qui choisis la dose de tabac que tu mets dedans. Après, il y en aura sans doute des purs. Il y aura pas mal de choses. Et pour les édibles, ça peut être pas mal parce que je pense qu'ils sont plus à même de contrôler les pourcentages de chacun des composants dans chacun des gâteaux.
Ok.
Et on sait que là, on peut très vite avoir des accidents.
Bien, bien.
Mais bon, je suis plutôt pour une production locale. Hein.
Ouais.
Mais ils s'y méprennent pas. Allez, l'Afrique du Sud qui est sur le point de réglementer.
Oui, l'Afrique du Sud, alors on en a déjà parlé plusieurs reprises, et puis je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'était en 2019.
2018, il y a
2018,
ans.
Oui, alors 2018.
Il y avait le célèbre procès de la plante. C'est-à-dire que c'était monté jusqu'à la Cour suprême, si je ne me trompe pas.
Voilà, c'est la Cour suprême qui avait rendu une décision qui dépénalisait en fait la possession et la consommation.
Oui, parce qu'il disait que c'était inconstitutionnel d'interdire la plante.
D'accord, ouais, ok, je ne me rappelais plus exactement, mais ouais, c'était probablement ça. Et donc... Et donc, 6 ans plus tard, les choses avancent. Alors, c'est toujours un peu long, mais voilà, il y a désormais un projet de loi qui vise à combler toute cette lacune au sujet du cannabis. Voilà. Un projet de loi qui a été approuvé par l'Assemblée nationale en novembre, puis le 27 février dernier. Et là, c'est le Conseil national des provinces qui a également donné son aval. Ce projet de loi qui s'intitule « Loi sur le cannabis à des fins privées » vise à mettre en place des directives précises concernant l'usage, la culture et le transport licite du cannabis. Ça vise aussi à lever les incertitudes entourant la décriminalisation en fournissant des définitions claires des termes, en retirant le cannabis des infractions en vertu de la loi sur les drogues et en abordant les conséquences des infractions liées au cannabis, telles que le trafic, la fourniture à des mineurs et la possession excessive, sans permis approprié. La législation propose des quantités précises de cannabis qu'un individu peut posséder ou cultiver à des fins personnelles.
On peut y aller directement, à les citer. Hein. Oui. Un adulte pourra cultiver jusqu'à 4 plants de cannabis en fleurs pour son usage, propre usage, jusqu'à 8 plants par logement occupé par deux adultes. Position maximum séchée pour usage personnel, 700 grammes par adulte dans un espace privé. Un adulte peut posséder jusqu'à 600 grammes et jusqu'à 1,2 kg par logement occupé par deux adultes.
Par deux adultes.
Par deux adultes, voilà, oui. Dans un espace privé. Voilà à peu près les faits. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses.
Non, c'était essentiel. Ouais.
Et la conclusion, elle est très blabla. Hein. L'adoption imminente de cette législation marque une étape importante dans la réglementation du cannabis en Afrique du Sud, offrant des directives claires pour la possession, la culture et l'usage de cette plante. Toutefois, l'application effective de cette règle et la résolution des questions en suspens restent des défis à relever pour le pays dans les mois à venir.
Oui, alors il semble aussi...
C'est vrai que ça prend du temps.
Il semble aussi, on n'en a pas parlé, bon, c'est pas grand-chose, mais il semblerait que quand même, il s'oriente aussi vers des clubs cannabiques. Voilà, donc, à voir, ils vont peut-être ouvrir aussi des cannabis social club ou l'équivalent. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle et un pays de plus qui nous met à l'amende et qui va nous faire prendre encore des dizaines d'années de retard. Mais bon, vous avez l'habitude. On a l'habitude. Voilà, et quand je vois l'article suivant, ça me fait encore plus je sais pas quoi. Parce que là, on va parler de la Malaisie. La Malaisie, c'est un pays où il y a quand même, je crois que c'est encore le cas, il y a quand même une loi qui pénalise de mort la possession de petites quantités de drogue. Voilà. Alors, il se trouve que la Malaisie a aussi été capable d'infléchir sa position, et notamment sur le cannabis thérapeutique. On en a parlé il y a quelques années. Mmh. Et là, il y a même carrément un député malais, Ramkarpal Singh, qui a demandé au gouvernement de revoir certaines sections de la loi de 1952 sur les drogues dangereuses, afin de permettre une approche davantage axée sur la prise en charge médicale. Mais moi, quand je dis ça, moi j'ai vécu en Asie, je connais un peu la Malaisie, je trouve ça incroyable. C'est dingue. Et encore une fois, on est vraiment à la rue, quoi, en France. C'est, on n'arrête pas de le dire, mais c'est chaque semaine, on a des exemples qui nous démontrent que qu'on est à la ramasse, quoi. C'est fou. Donc, ce député malaisien a déclaré que il y avait une surpopulation carcérale dans le pays. Hein. On n'est pas surpris.
Ils sont 75 000, un peu plus de 75 000 pour 69 816 places, avec quand même 23 523 personnes pour usage de drogue et toxicomanie.
Alors, c'est marrant parce que ce sont des chiffres qui sont très comparables à la population carcérale française et au nombre de places. C'est à peu de choses près, hein. Enfin bon, pas exactement ça, mais. Et donc, d'après lui, il serait sage que le gouvernement revoie la loi. Il faudrait mener une étude sur l'efficacité des méthodes punitives dans le traitement des problèmes liés à la drogue. Formidable, oui. On ne peut pas l'inviter en France, lui non plus. Il a aussi salué l'engagement du ministère de la Santé pour aider les personnes qui luttent contre la consommation de drogue et la dépendance, blablabla, hein, dans une approche sanitaire. Il a aussi déclaré que les efforts déployés par les ONG telles que Persatuan Pengasi, qui est une ONG malaise, pour traiter les toxicomanes et dépendants devraient être salués, encouragés. Il dit aussi l'incarcération de consommateurs de drogue et des toxicomanes ne permettra pas de surmonter, de réduire le problème de la consommation de drogue et de la toxicomanie. Il est grand temps que le gouvernement adopte des politiques ayant pour objectif à long terme de réhabiliter ces délinquants qui peuvent contribuer au développement du pays et de réduire le nombre de détenus dans les limites de la capacité maximale des prisons du pays. Voilà, des déclarations pleines de bon sens et de clairvoyance. Voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur la Malaisie.
Non, c'est bien, c'est vrai que nous on va être les derniers. Hein.
Non, mais là c'est pire que ça, on va être les derniers des derniers des derniers. Quoi. C'est fou. C'est vraiment... c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Bref. Maintenant, on va terminer sur cet article du CBD qui pourrait peut-être soulager les douleurs liées au cancer. Je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on parle de l'étude qui a été menée. Je ne la retrouve pas. Si, je vais y retrouver. Voilà, c'est l'étude randomisée en double aveugle. Donc ça veut dire que c'est une étude qui est plus que sérieuse. Voilà. Parce que bon, il y a plein d'études, on parle de plein d'études, y compris sur les effets thérapeutiques du cannabis, pour différentes raisons. Selon les endroits où sont faites les études, elles ne sont pas toutes randomisées en double aveugle. Voilà, et contrôlées par un placebo. Mais en tout cas, celle-ci l'est. Et elle a été publiée dans le Journal of Pain and Symptom Management. Et cette étude a examiné les effets du nabiximol, qui est un médicament à base de cannabis contenant du THC et du CBD, mais il y a du THC, chez des patients cancéreux souffrant de douleurs réfractaires. Et les résultats de l'étude ont montré des améliorations significatives de l'intensité de la douleur, de la qualité du sommeil, de la satisfaction globale quant au soulagement de la douleur dans le groupe nabiximol, donc le groupe qui avait pris le médicament, par rapport au groupe placebo qui ne l'avait pas pris. De même, une étude observationnelle prospective portant sur des patients atteints de cancer et recevant des soins palliatifs a montré qu'une thérapie adjuvante à base de CBD était associée à une réduction de l'utilisation des opioïdes et à une amélioration du contrôle de la douleur sans effets indésirables significatifs. Ces résultats suggèrent que le CBD peut compléter les stratégies existantes de gestion de la douleur en offrant un soulagement tout en minimisant le recours aux opioïdes. Voilà, une étude qui, selon moi, ne fait que confirmer une fois de plus cela, c'est-à-dire que avec cette thérapeutique, on réduit le recours aux opioïdes. C'est quand même pas rien. Voilà. Malgré ces résultats prometteurs, plusieurs difficultés semblent entraver l'adoption généralisée du CBD dans les traitements de la douleur liée au cancer. Restrictions réglementaires, stigmatisation des produits dérivés du cannabis, on a l'habitude, sont donc les obstacles classiques qu'on connaît à la recherche de, et à l'accès des patients. Voilà. En outre, la variabilité des formulations de CBD, des régimes de dosage et des réponses individuelles complique l'interprétation des résultats des études. Mais est-ce que ça, c'est différent d'avec d'autres médicaments, en fait ? Franchement,
non. C'est... Oui.
Voilà, bon.
Après, c'est juste arriver à bien avoir toujours le même produit, faire le répliquer pour que les patients puissent savoir comment les doser et savoir lequel choisir.
Alors, on nous parle aussi de préoccupations concernant la sécurité, les instructions, les interactions médicamenteuses potentielles du CBD. Tout ça, bien sûr, ça doit être examiné attentivement. Bon, bah, c'est comme avec d'autres médicaments aussi. Hein. Bien que le CBD soit généralement bien toléré, des effets indésirables tels que la fatigue, la diarrhée et des changements d'appétit ont aussi été signalés. Le CBD peut aussi interagir avec certains médicaments métabolisés par le système enzymatique du cytochrome P450.
Oh oui.
D'accord. Ce qui nécessite une surveillance étroite et des ajustements de dose. Je pense que c'est surtout ce qu'il faut retenir.
Voilà, ben, surtout c'est que ça marche pour soulager les douleurs dues à des cancers. Et ben, voilà, il faut attendre les études suivantes maintenant, puisqu'il y en a d'autres qui sont en cours, si j'ai bien compris.
Oui, alors il y a d'autres études qui vont se mettre en place sur les effets de synergie du CBD avec d'autres cannabinoïdes et des thérapies conventionnelles qui pourraient aussi permettre de découvrir de nouvelles approches thérapeutiques. Bon, bah oui, bien sûr, ouais.
Et tout à fait, et peut-être qu'on ira même plus loin qu'enlever la douleur, parce que moi je me souviens d'avoir lu des trucs sur des souris sur des tumeurs du cerveau, avaient noté...
C'est le THC qui provoque l'apoptose des cellules cancéreuses.
C'est de ça dont je voulais parler.
L'apoptose, la mort des cellules cancéreuses.
Voilà. Bah, je pense qu'on reviendra sur ces sujets dans le futur, dans nos prochains événements de Cannabis Circus.
Bah oui.
Et puis d'ici là, on va vous souhaiter une bonne semaine et on va vous laisser dans les mains de chasseurs de son.
Voilà, à la semaine prochaine pour un nouveau Cannabis Circus. Au revoir,
et voilà,
bonne soirée.
Et n'oubliez pas, tout corps carboné fumé provoque des cancers.
Vaporisé donc.
Donc, vaporisé.